Juste une petite parenthèse.
En reportage permanent. Ce 16 septembre avait lieu la fête de la Confédération paysanne de la Drôme. Pour cette édition 2023, un maître mot, autonomie. Avec pour invité d'honneur l'atelier paysan et ses machines Do It Yourself, entourées de plusieurs initiatives tout aussi constructives. Des stands d'information, des stands paysans, des jeux, des concerts, une journée dynamique et festive pour imaginer des futurs réjouissants. Bonne écoute!
Bon, alors, moi je suis inscrite, moi.
Les toilettes, ils sont ultra fonctionnelles.
Comment vous faites?
Tu es en train d'enregistrer?
On est le 16 septembre et c'est le jour de la fête de la Confédération paysanne de la Drôme.
Là, vous avez le programme avec d'un côté le salon de l'autonomie paysanne et ici plus les stands associatifs et le marché paysan.
Oui, d'accord.
Là, il y a une conférence par là.
C'est ça.
À la Confédération paysanne, ce qu'on défend en fait, c'est une certaine forme d'indépendance par rapport au système qui a été mis en place depuis maintenant quelques dizaines d'années pour rendre en fait la production alimentaire dans notre pays assez captive. Donc cette indépendance qu'on essaie de construire pas à pas et avec des pas de plus en plus grands si possible. Elle se situe en fait à la fois en amont, c'est-à-dire être moins dépendant des fabricants de machines, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir avec l'atelier paysan. On va être bien plus indépendant des marchands de semences en produisant notre propre semence et bien d'autres aspects qui concernent tout ce qui est l'amont de la ferme. Mais il y a aussi l'aval de la ferme. L'aval de la ferme, c'est quoi ? C'est réussir à raccourcir les circuits entre celui qui ou celle qui va consommer ce qu'on produit et la ferme où elle est produite. Donc ce qu'on défend via l'autonomie paysanne, quelque part ça va bien au-delà de l'idéal autarcique que certains voudraient nous coller sur le dos, notamment des politiques locaux que je ne citerai pas, ils ne le méritent pas. Mais c'est un projet de société. On ne réussira pas à s'assurer un avenir durable sans entreprendre justement un pas vers plus d'autonomie paysanne.
Ce qui est présenté dans le salon de l'autonomie paysanne, c'est des engins, des outils, des machines qui ont été autoconstruites. Et c'est vraiment ça la raison d'être de l'atelier paysan, c'est une société coopérative qui existe depuis 2014 et qui au départ organisait des tournées de recension des bricolages que faisaient les paysannes et les paysans dans leurs granges, puisqu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'autoconstruction qui se faisait sur le terrain, sans que ce soit forcément répertorié, mis en commun. Et donc l'atelier paysan va donc voir ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite, on a des personnes qui sont spécialisées là-dedans pour en faire des plans qui sont ensuite à disposition, donc en libre service sur Internet, et qui ensuite ont vocation à être eux-mêmes améliorés par d'autres paysannes et paysans qui les utilisent, qui repèrent éventuellement des choses qui pourraient être mieux faites. On entend assez peu parler du marché de la machine. Or, aujourd'hui, ce marché-là, au niveau mondial, il est dominé par quelques très gros, type John Deere, et le chiffre d'affaires annuel mondial de la machine, c'est plus que l'addition du marché au niveau mondial des engrais, des pesticides et des semences. Donc c'est absolument phénoménal. C'est une grosse partie aussi, donc non seulement de la dépendance, puisque c'est de plus en plus des machines, des tracteurs qu'on ne peut pas réparer soi-même, qui sont de plus en plus gros, de plus en plus puissants, de plus en plus chers. Donc c'est un facteur de dépendance, c'est aussi un facteur de surendettement de beaucoup de paysannes et de paysans, de dégradation des sols. Et donc, évidemment, c'est voilà, pour nous un vrai cheval de bataille aussi que de proposer des alternatives.
Bon, moi, je suis maraîcher et j'ai co-construit ces outils en formation avec l'atelier paysan.
C'est quoi comme outil?
Du coup, celui-là s'appelle le vibre-planche.
Le cultibut,
Ah. Et derrière, la buteuse, plus classique. Ouais, ça fait film de ouais. Polar. Et ouais. Ça, c'est la barre porte-outil.
D'accord.
Et ce qui est assez drôle, c'est que derrière, en fait, ça, c'est un outil qui a été. C'est une copie d'un outil qui a été fait en Isère. Et ça a l'air très drôle, c'est qu'en fait, hier, en déposant l'outil, dans la broussaille, il y a l'original.
C'est pas vrai, ouais. Génial.
Qui, du coup, était un outil fait en Isère. On a regardé la plaque.
Okay.
Et en fait, je crois qu'ils ont arrêté de le faire. Enfin, ça devait être une. Je sais pas si l'usine tourne encore. Ça devait être une petite fabrique d'outils. Et du coup, en fait, ils ont repris. Parce que c'est. Enfin, l'atelier paysan, c'est né autour de l'Isère, on va dire, comme le bassin isérois.
Ok.
Et du coup, bah, la barre porte-outils, ils l'ont réadaptée pour le maraîchage. Et aujourd'hui, ils font un tas, en fait, cette barre. Et derrière, avec ce système de trous et de barres que tu rentres dedans, tu peux mettre des accessoires.
D'accord.
Et du coup, que ça soit moi ou du coup ma collègue, nous, on a bénéficié d'une formation, elle, il y a 2 ans et moi l'an dernier.
C'est combien de temps, les formations ?
Alors, l'atelier paysan, souvent, ça dépend de l'outil. C'est plutôt autour de 5 et 8 jours. Mais nous, on a bénéficié d'une formation qui, je crois, ne se fait plus, qui était une formation sur 11 semaines et qui s'intitulait « S'installer avec les technologies paysannes ». C'était le truc. Et du coup, on avait 3-4 semaines d'atelier où on fabriquait des outils. Donc, soit des outils pour ceux en maraîchage. Il y a la brosse à blé là-bas. Il y avait un gars qui était avec nous qui faisait une brosse à blé. Il y avait différents outils du catalogue que proposait Atelier Paysan.
Okay.
Et on avait une semaine... C'était une semaine politique, une semaine d'initiation à la charpente, électricité et tout, pour avoir une base pour s'installer sur une ferme. Et du coup, cette année, nous, on s'est installés l'an dernier, du coup, on a pu les utiliser.
Il faut être, bricoleur à la base quand même, non ?
Non, c'est vraiment fait pour des... C'est fait pour des non-bricoleurs à la base. Bah, surtout là, ce format de formation était vraiment fait pour des... Après, il y avait de tout hein, dans la formation.
Ouais.
Il y avait des, comme d'hab, des bricolos, des gens qui savaient souder. Mmh. Moi, j'avais jamais soudé, jamais utilisé une meuleuse, une perceuse à colonne. Et la majorité des gens n'avaient jamais utilisé un outil de ce genre. Et finalement, tu sors des outils qui ont l'air comme ça.
Une super gueule. Ouais.
Une super gueule à la main max. Et surtout, bon, voilà, faire un outil, c'est un truc. Et aussi, il fallait qu'on conçoive un outil, donc faire les plans, partir d'un besoin, définir ton besoin, un peu comme ferait un ingénieur pour développer un outil, quoi. Du coup, partir de ton besoin, le dessiner, faire des plans, dire ok, j'ai besoin de telle et telle pièce, faire ta petite commande de métal, et à la fin, donc c'était le projet de fin de formation, à la fin de formation, on faisait chacun un petit outil. Parce que faire suivre un plan, c'est une chose, on pourrait dire c'est assez simple, entre guillemets, mais partir de dire j'ai tel besoin, comment est-ce que je crée moi-même un outil, ou c'est jamais vraiment des créations, enfin, tu réinventes toujours un peu la roue, mais tu te le réappropries. Et ça, je trouve c'est le plus intéressant, in fine, c'est de pouvoir toi-même réfléchir, dire j'ai tel problème, maintenant je sais conceptuellement conceptualiser un truc, et je sais faire avec mes mains.
Yes. Et les matériaux, c'était des matériaux mis à disposition?
Non,
les
ça le.
Toi-même, comment ça se passe?
Bah après l'acier, ça généralement tu l'achètes.
Ouais. Mais des pièces comme celles qui sont là.
Et ça,
un peu
ça par
arrondi,
exemple, ça c'est acheté dans le commerce.
Ça c'est acheté, ouais.
Ouais. Mais d'accord. Ça, tu vois une dent comme ça, je sais pas, ça coûte 30 balles, genre. Et aussi, tu peux modifier des outils du commerce que tu achètes.
Mm.
Des fois, bah, les raccourcir, enlever une pièce, rajouter un truc qui te paraît plus pertinent. Et ça, c'est vrai que si tu sais pas souder ou meuler, bah, tu peux juste pas faire.
Mais après, quand tu l'as conçu, tu peux la réparer aussi.
Tu peux la réparer, tu comprends mieux le mécanisme.
Ouais,
et ça te permet aussi de comprendre comment fonctionnent d'autres machines, parce qu'on est toujours sur les mêmes principes de base. J'espère que la région revotera des crédits pour cette formation, parce qu'elle était super chouette. Au-delà du cadre de ce qu'est l'atelier paysan, le côté politique, si on parle du côté purement formation, c'était vraiment chouette.
Et ces formations, elles sont un peu partout en France ou c'est,
ouais,
c'est
ils ont plusieurs sites. Nous, là, en Isère, c'était à Renage, à Grenoble. Occitanie, c'est dans les Corbières, je ne sais plus où c'est. Et ils ont, je crois, en Bretagne aussi. Et
d'accord.
Après, ils en font des un peu itinérantes dans certaines régions, mais... Après, la base est à Renage.
Mm.
Et là, pour le coup, c'est une ancienne usine, une ancienne papeterie désaffectée, reconvertie en atelier. Donc, tes petits oignons, t'as tout ce. Enfin, tip top.
Très bien.
Super heureux d'avoir pu faire cette formation. C'était ouais, un gros cadeau pour la fin d'année 2022. Quand on a été pris à cette formation, on était wow, comme des gamins. Donc voilà.
Bah, merci.
Ça dure.
À plus tard.
Thubault qui tombait toujours avec un petit chouchou là. Mais aujourd'hui
alors,
je parlerai
alors
pas.
Alors la touriste, qu'est-ce que t'as à dire sur...
Je suis peut-être bien une des touristes. Je ne sais pas d'où viennent les gens, mais je suis peut-être celle qui vient le plus loin, hein, quand
ouais,
même.
Je pense.
Pour me retrouver exactement dans mon élément, comme si j'étais chez moi.
Ben voilà.
Non mais c'est beau. Après, quand tu vois les outils qui ont été faits par la Tour des Paysans. Nous, en commencement en Alsace, ils se sont présentés l'année dernière et ils ont fait une première journée. On a beaucoup de choses à faire évoluer chez nous dans l'esprit. Ça me donne une idée, toi. On fait des pique-fêtes paysannes, on fait le salon à la ferme, mais changer le titre, ce mot autonomie paysanne, c'est beaucoup plus intéressant que du salon à la ferme. S'inspirer un petit peu, hein, même si c'est que des mots. Juste les mots, d'autres mots utilisés. Hein.
Alors, bah, c'est important les mots, on
oui,
voit bien ce qu'on fait
mais,
à pouvoir.
Mais,
donc,
mais c'est ce que j'allais dire. En face de nous, ils jouent tout le temps et dès qu'il y a un mot qui ne passe plus, ils trouvent un autre mot qu'ils inventent pour hein, mieux. Maintenant, on crée du vocabulaire, ben, nous aussi, il faut qu'on crée l'autre.
Moi, c'est Alexandre, donc je travaille juste à côté d'ici, dans le hameau à côté, à la ferme Bouteille où on produit des grandes cultures transformées. Donc des farines, des pâtes, des huiles, de la moutarde, des pois chiches, des choses comme ça, de la polenta. Mais là, du coup, je vais parler plus aussi en tant que membre du groupe blé de l'Ardéar. Donc l'Ardéar, pour, je ne sais pas si tout le monde situe ce que c'est l'équivalent régional des ADR. Les ADR qui ne font pas que des stands de crêpes, mais aussi tout un tas d'autres choses autour de l'installation et du développement de l'agriculture paysanne sur le terrain, aux côtés de la conf. Et du coup, ben, au niveau régional, on a un groupe de travail sur le blé qui existe depuis bientôt 20 ans, qui vise à utiliser des céréales non industrielles et retrouver de l'autonomie en fait, sur la production de semences, sur la sélection de variétés adaptées à une agriculture paysanne et principalement, donc ça rassemble principalement des fermes qui font de la transformation à la ferme, donc des céréales et d'autres grandes cultures transformées en farine et ou en pain. Et pour situer du coup ce que je vais raconter, c'est beaucoup ce qu'on a retracé il y a quelques années, donc en 2019 c'est sorti, ce qu'on a retracé toute cette expérience un peu collective dans ce livre qui s'appelle Notre pain est politique, qu'on a écrit collectivement accompagné par des membres de la revue Z, qui sont aussi notre éditeur, les éditions de la dernière lettre. Voilà. Du coup, par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est l'autonomie paysanne, l'idée de parler des semences, c'est que c'était un exemple, enfin en tout cas la trajectoire qu'on a eue en Rhône-Alpes, c'était un exemple assez intéressant pour aborder ça. C'était à l'époque de l'arrivée des OGM en plein champ, et aussi du développement de filières et de circuits un peu courts, notamment de pain à la ferme. Le constat, c'était de se dire, si on ne veut pas utiliser des OGM ou des techniques de synthèse qui ne nous conviennent pas, le problème principal, c'est qu'on ne sait plus faire des semences nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de les faire nous-mêmes pour savoir ce qu'on veut cultiver et qu'on produise nous-mêmes ces semences. L'autre point qui est plus agronomique, c'était pas mal de gens qui étaient en bio, dans des conditions de montagne ou de climat compliqués. Et donc, ils avaient une problématique de toute façon d'avoir des problèmes de rendement avec des variétés modernes. Donc, d'acheter des variétés modernes qui ont été sélectionnées, pas pour nos fermes et nos réalités, mais qui ont été sélectionnées pour produire du blé dans des plaines à renfort d'intrants chimiques quand c'est en conventionnel. Et quand c'est en bio, à renfort d'intrants pas chimiques, mais en tout cas, qui ont été sélectionnés pour faire de la céréaliculture à grande échelle, quoi. Du coup, là aussi, la solution, c'était de se dire, si on veut trouver des variétés qui soient adaptées, vu que personne n'en propose, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. Petit à petit, ça a permis de dérouler en fait tout un tas de choses beaucoup plus larges en fait sur l'autonomie des fermes. Très rapidement, en fait, le constat a été fait de se dire, en fait, faut pas qu'on s'adapte à des choses qui pourraient arriver, c'est que c'est déjà là, et du coup, il faut qu'on s'adapte à survivre au quotidien, quoi, et à ce que chaque année, on soit toujours en capacité de sortir des volumes de céréales, malgré le contexte, on n'arrive pas tout seul sur nos fermes à influer, quoi. Et pour ça, en fait, il y a eu quand même tout un tas de solutions techniques qui sont sorties de ça.
notamment cultiver des mélanges de variétés. Donc au lieu d'avoir des variétés pures, de cultiver des mélanges en plein champ, des mélanges qu'on appelle des mélanges dynamiques, donc avec jusqu'à 50-60 variétés mélangées dans la même parcelle. Ça permet globalement, sans rentrer dans des détails techniques, mais plutôt qu'avoir des choses très performantes, mais si elles n'ont pas le contexte qui va bien, enfin voilà, une variété qui va être très performante sur un sol un peu sec, et si c'est une année humide, elle va pas marcher, là d'avoir quelque chose qui est régulier en fait. Chaque année on a des rendements qui ne sont pas très élevés, mais on les a chaque année, et on peut avoir la sécurité de savoir que ça, ça va marcher. Il y a eu l'idée tout de suite de dire, si on veut rester autonome, il faut que ces semences, elles restent sur les fermes. Et il faut que ce travail soit porté par les paysans et paysannes, et pas qu'on délègue à nouveau ce travail-là, par exemple à des salariés techniciens, plutôt qu'à des semenciers industriels, mais quand même, ce qui est le cas en fait dans d'autres réseaux, et c'est leur choix, hein, mais où il y a des plateformes d'essai qui sont centralisées, qui sont gérées par des salariés, ce qui fait que ça rend les choses très très fragiles. C'est pas simplement une posture théorique de dire on veut pas que ce soit des salariés qui fassent ça, c'est pas ça du tout, c'est que simplement on le voit là en Rhône-Alpes actuellement, Laurent Wauquiez et sa bande sont en train d'essayer de détruire méthodiquement le réseau des ADR. Typiquement s'ils réussissent, avec le fonctionnement qui a été choisi, il y a certes plus tout le temps salarié, donc il y a une salariée à l'ADR qui suit ce travail là et qui fait beaucoup de travail là dessus s'il y a plus de temps salarié, ça va faire beaucoup beaucoup de mal au projet et à ce travail. Par contre, il y aura toujours des semences qui seront sur les fermes et toujours des gens en capacité de les multiplier, de les échanger et de les partager. Et ça, c'était un des points centrales de dire il faut qu'on soit effectivement plus dépendant de l'agro-industrie, mais il faut aussi qu'on réfléchisse à comment au maximum, en fait, ce travail-là, il peut perdurer quoi qu'il arrive. Quoi. C'est un peu ça l'idée.
Moi, je suis là pour présenter une initiative qui se passe à Dieulfi et dans la communauté de communes Dieulfi-Bourdeaux sur l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet porté par la Confédération Paysanne.
Ok.
Et du coup, il y a plusieurs objectifs à cette expérimentation. C'est que tout le monde ait accès à l'alimentation bio, locale, de qualité, quel que soit leur revenu. Le deuxième objectif, c'est que les paysans puissent vivre dignement de leur métier. Et des objectifs annexes, c'est qu'on choisisse collectivement ce qu'on veut manger sur notre territoire et donc favoriser l'installation de paysans sur notre territoire. Donc changer petit à petit aussi nos modèles agricoles, etc. Et du coup, pour ça, on a inventé un système de trois prix qui est qu'une phase dans notre expérimentation, parce qu'on aimerait bien aller vers une cotisation. Du coup, quand on va sur un marché qui est conventionné par nous, on a un système de trois prix. Un prix qui est le prix normal, qu'on paye partout, comme, enfin, classique. Un prix accessible qui est moins cher pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et un prix solidaire qui est plus cher pour ceux qui le peuvent et qui le veulent. Et donc, on a une solidarité circulaire où les prix solidaires viennent financer les prix accessibles. Le paysan, lui, part toujours, enfin le producteur, il part toujours qu'avec son prix. S'il y a eu beaucoup de paniers solidaires, ça va dans une caisse alimentaire qui pérennise le projet.
Génial.
Et par contre, s'il y a eu beaucoup de paniers accessibles et qu'il y a eu beaucoup de personnes petit budget qui venaient, à ce moment-là, la caisse, elle vient compenser pour que le paysan, il parte toujours avec son prix. Donc ça, c'est une de nos phases d'expérimentation où on est actuellement.
Ça fait combien de temps?
Ça fait 2 ans.
Okay.
Et il y a plusieurs points de vente. Il y a un marché à Dieulfi où il y a 8 producteurs. Un marché à Pont-de-Barret où il y a 8 producteurs et une boulangerie aussi qui à Poët-Laval qui fait aussi ce système de 3 prix. Et tous les 3 sont solidaires puisque à chaque fois qu'ils ont des excédents, ils le mettent dans une caisse qui leur est commune.
Okay.
Et cette caisse, elle vient reverser aux 3 leur déficit quand ils en ont.
C'est une asso qui porte ça ou c'est...
C'est un collectif de citoyens qui est porté par une association qui s'appelle Village en Transition. Et dans ce collectif de citoyens, il y a une élue municipale, Camille Perrin. Il y a des paysans qui sont là, des maraîchers, des boulangers. Et il y a tout un tas de citoyens. Moi, je suis infirmière, donc je suis plutôt du côté des citoyens, femme de maraîcher aussi. On réfléchit ensemble, c'est ouvert à tous ceux qui ont envie de réfléchir avec nous pour les phases suivantes. Parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter aux 3 prix, c'est d'avoir un système système de, un double système de cotisation où les gens cotiseraient une certaine somme en fonction de leurs moyens et auraient une allocation qui serait toujours la même pour tous. Et cette allocation, ils pourraient la dépenser dans des lieux conventionnés. Donc il y a tout un autre travail de conventionnement.
Ok.
Des paysans, des lieux de vente, des produits qu'on a envie de manger.
Ça, donc, c'est une expérience qui a du Elfi. Et si, par exemple, on a envie de faire pareil à Di, on peut s'inspirer de ce que vous faites?
Alors,
comment
on peut
ça se passe?
Alors, on peut s'inspirer de ce qu'on fait. Nous, on a rencontré plein de gens déjà. On a pas mal un peu diffusé. Il faut savoir que sur le territoire, il y a plein d'initiatives sur la sécurité sociale de l'alimentation qui ne prennent pas toutes la même forme. Mais il y en a à Montpellier, il y en a dans les grandes villes, hein, Lyon, Paris. D'accord. Et dans d'autres petites villes aussi. Et il y a aussi un collectif national qui réfléchit aux piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. Et dans ce collectif national, il y a les organisations comme la Confédération Paysanne.
Okay.
Il y a aussi Réseau Salariat, ISF Agrista, il y en a plein comme ça. Et donc on est tous en lien pour réfléchir un peu à ça. Et si d'autres ont envie de créer quelque chose comme ça, ils peuvent tout à fait s'inspirer, nous contacter. Ou voilà.
Ok, génial, super initiative.
Voilà.
Merci.
Bah, avec plaisir.
On est sur le stand de la Tram,
ouais.
C'est une asso à Di qui fait de l'accueil de personnes migrantes.
Okay.
On fait de l'hébergement, on fait des activités comme du pain et de l'accompagnement juridique, social pour les personnes en galère. Et donc on a un four qu'on a construit avec l'atelier paysan et qu'on utilise dans l'asso pour faire le pain, les biscuits, les pizzas, voilà.
Et cet asso, si on a envie de s'engager aux côtés des migrants, on peut venir vous voir, on peut participer, comment ça se passe?
Ouais, on a plein d'idées, plein de propositions, ouais. Sans souci.
Et vous avez besoin de bénévoles?
Ouais, toujours.
Ouais.
Après, c'est très varié, hein, les postes. Ça peut être de l'aide pour la com, pour le site internet, pour... Ça peut être, on a eu besoin d'un graphiste récemment parce qu'on fait des étiquettes pour des pots de confiture qu'on va vendre.
Okay.
Après, il y a des gens qui nous aident à faire les pizzas quand on fait des soirées pizza.
Ouais.
Plein de choses variées, quoi. Ouais. On peut même partir en vacances, avoir besoin de bénévoles. Sortir un peu du quotidien qui est parfois un peu ennuyeux, quoi, quand on n'a pas de travail, qu'on ne peut pas travailler, qu'on n'a pas de droit, quoi. Ça limite les possibilités dans la vie. Donc on essaie de reconstituer une asso dans un esprit communautaire, quoi.
Ouais.
On travaille tous ensemble et on avance ensemble.
Et il y a, au niveau de Di, comment ça se passe? Il y a des logements, il y a des choses qui sont mises en place, je veux dire, au-delà de votre asso, hein, c'est comment
Le logement public, il n'y en a pas, quoi. Enfin, il y a 3 places de 115 à Di, donc autant dire qu'il n'y en a pas assez. Et nous, on a deux logements dans l'asso. Il y en a un qu'on nous a prêté. C'est une asso de particuliers qui nous a prêté le logement. Et l'autre appart, on loue un propriétaire.
Okay.
Et là, on est en voie d'acheter un troisième logement, un appart avec 3 chambres. Et dans 10 jours, on signe. On a rendez-vous chez le notaire pour l'acheter. Et ça fait 3 mois qu'on collecte de l'argent et qu'on demande des prêts à des particuliers.
Okay.
Qui veulent bien nous prêter de l'argent. Et là, on a déjà collecté 80 000 euros.
Génial.
Il nous manque 21 000 euros à collecter en 10 jours, là.
D'accord.
C'est un peu le défi.
Tu peux donner, je sais pas, une adresse internet.
L'info, ils peuvent la trouver sur latram26.org.
D'accord.
Vous avez plusieurs vaches?
On en a qu'une, je crois.
Ah, d'accord.
Avant, ils avaient des gros, mais...
C'est génial, donc t'as fait le gros croix, ça nous va bien.
Alors, c'est quoi votre stand, vous?
Eh bien, on est sur un stand de sorbet paysan.
Paysan, c'est quoi des sorbets paysans?
Eh bien, nous, on est paysans, c'est-à-dire qu'on cultive nos fruits et nos plantes aromatiques et on les transforme en sorbet.
Ok.
Sur une toute petite surface à Di.
D'accord. T'as quoi comme parfum?
Alors aujourd'hui, on a plusieurs parfums. On a cassis mélangé à de la cerise.
Mmh.
On a verveine, menthe, cassis tout seul. On a de la prune mirabelle. On a de l'anis d'estragon, du romarin avec du zeste de citron, de la groseille, mélisse, gingembre, pommes.
Et tu vends où d'habitude? T'es toujours dans ce camion?
Bah, depuis cette année, on est essentiellement dans cette roulotte là, ouais. Enfin, cette petite remorque
cette
qu'on traîne.
Jolie roulotte.
Ouais, merci. Et du coup, bah, cette remorque, on la traîne souvent les week-ends sur des événements, des foires, voilà, essentiellement dans le Diois. Et après, on vend aussi nos produits en pot, et ça, dans les magasins de producteurs du coin, ou quelques épiceries, cafés associatifs, voilà.
Trop cool.
Ouais.
Ça donne envie. Hein.
Bah, repasse quand tu veux.
Ouais, je repasse. C'est le stand des chouettes.
Oui, les chouettes. Donc c'est une association du Diois,
ouais,
qui lutte contre les violences. Et de fait, c'est essentiellement des violences faites aux femmes.
Okay.
Voilà. Conjugales ou non. Ouais. On a aussi un cas de transgenre là, récemment. On s'occupe de tout ça. Et il y a beaucoup de travail, et c'est que des bénévoles.
Qu'est-ce que vous mettez en place ?
L'information pour les femmes victimes de violences, bien souvent, qui viennent s'informer sur ce qu'elles peuvent faire. Et c'est elles qui prennent les décisions après.
D'accord.
Parfois, on met des femmes qui sont en danger ailleurs, qu'on trouve des lieux pour les secrets. Et du jour au lendemain, hop, on les déménage,
okay,
loin de leur homme violent, et voilà, ce genre de choses. Depuis un peu plus d'un an, ça fait deux assemblées générales. Les chouettes se sont ouvertes aux hommes, donc c'est quelque chose d'important, parce que le combat contre le patriarcat se fera ensemble. Et voilà Fabienne qui nous rejoint.
Salut.
Bonjour. Il y a trois volets. Il y a le volet de l'accompagnement au niveau des situations telles qu'elles se présentent et quand on a à les connaître. Et ça, c'est au cas par cas. Il y a un volet sur tout ce qui est la sensibilisation d'un public beaucoup plus large, qui n'est pas forcément concerné directement, mais qui doit aussi modifier des choses dans ses représentations. Et là, c'est organiser des colloques, des soirées ciné, théâtre, etc., avec des débats. Et puis, le troisième et dernier volet, c'est de chercher à faire aussi la promotion de formation et d'en proposer à des types de publics qui travaillent avec des gens et qui peuvent être à même de faire du repérage de certains types de difficultés. C'est le fait du désert de personnes relais en milieu rural qui fait qu'elles sont nées. Donc c'est ça aussi l'origine des chouettes localement.
Okay. Bah, merci.
De rien, merci aussi.
Adaf Arbres et Sols Vivants, et en fait on est une association. On travaille au développement de l'agroforesterie, de l'agroécologie. Donc c'est sur toutes les pratiques qui vont préserver les sols et qui vont réintégrer de l'arbre sur les fermes.
D'accord. Et réintégrer comment? Pas n'importe comment, j'imagine.
Non, bah, on accompagne justement pour savoir quels arbres on met, comment on les met, où est-ce qu'on les met. Et puis bah, en fonction des objectifs qu'on a, que ce soit pour ramener de la biodiversité, pour se protéger du vent, pour faire un microclimat, enfin il y a plein de choses, hein, pour faire du bois, de la biomasse, du broyat, des fruits. Donc en fonction du projet de chacun, on accompagne un petit peu tous les paysans, paysannes pour les aider à définir leur projet d'intégration de l'arbre.
Comment ça se passe, par exemple, si t'es paysan, tu fais appel à cet asso, c'est gratuit, c'est payant, ça se passe comment?
Bah, il y a plusieurs choses possibles, mais on propose des formations, on propose de travailler sur les projets, du coup, pendant ces formations-là. Et puis après, on accompagne, ça va être de la recherche du financement pour les arbres, le matériel, parce qu'il faut des protections, il faut du paillage, ça commence à coûter cher à la fin quand on chiffre tout ça. Et nous, ouais, on les accompagne de la recherche du financement jusqu'à l'organisation du chantier collectif s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin de nous, bah, tant mieux, mais s'il faut, on va aussi jusqu'à planter. Le but, c'est de rendre possible les projets, parce que ça vient souvent en plus du travail de la ferme.
Ouais.
Et du coup, ça peut vite prendre du temps, surtout pour implanter. Après, à la gestion, ça va, mais c'est à l'implantation. Si on veut remettre 1 km de haie, par exemple, et un petit peu d'arbres dans les champs, un peu d'intraparcellaire, comme on dit, bah, là, ça devient tout de suite un peu plus énergivore.
Okay. Merci.
De rien.
C'est l'association AFPS, France-Palestine Solidarité. On soutient les Palestiniens dans leur résistance à l'apartheid, résistance à l'occupation. L'Europe est d'une mollesse invraisemblable. À chaque fois qu'il y a quelques gros... Il y a eu des interventions à Génine, là, dans l'été, on en a un petit peu parlé dans les médias, mais on dit c'est intolérable, et puis c'est tout. Les Palestiniens vivent comme une grande injustice la manière dont a été traitée l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisqu'il y a eu immédiatement des sanctions, alors qu'eux sont envahis depuis 1948. Et on ne bouge pas.
Pendant des millénaires, les conteurs glorifient des dieux, des rois, des guerriers qui accaparent, dominent, possèdent et se font leurs esclaves en violant à tour de bras, en blessant au plus profond de l'être, en ouvrant une porte au néant qui nous fait disparaître et laisse un corps qu'on enchaîne sans résistance, vidé de toute sa vie, vidé de tout son sens, qu'on n'a plus qu'à remplir avec la bonne histoire et ce n'est donc pas pour entrer dans sa case. Les romanciers racontent les riches rivages exotiques où vivent les sauvages naïfs qui ne font rien de leur argent. Idiots et fainéants pour les faire travailler. On attire leurs élites et on les convertit. L'argent, plus important que la vie. Les armes pour convaincre. Et les journalistes et les politiciens racontent la grande œuvre civilisatrice. Le butin s'entasse et nous sommes tous complices. Et je regarde mes mains, elles sont pleines de sang. J'exproprie, je détruis, je pollue, j'extermine à distance. J'enrichis l'élite qui me méprise. Je cautionne en silence, mais je peux rien faire moi. Puis c'est comme ça, puis c'est trop dur à encaisser. Et puis, la vie c'est ça. Il y a des prédateurs et il y a des proies. Chacun sa peau. La domination n'a plus de limite. Une histoire hypnotique, une histoire de notre subconscient, une état de choc. Comment lutter? On va déjà brûler, exterminer, torturer. Tout le monde s'est tourné contre moi, tous te l'ont lâché. Terrorisés ou ensorcelés, on voudra tous te dévouer à l'autorité de l'État, de l'Église, de l'argent, de la force. Le cœur farci de soumission, d'angoisse, d'échouer.
Si vous souhaitez vous engager ou apporter votre soutien, n'hésitez pas à contacter les organismes qui ont participé à ce reportage et que nous remercions au passage. La journée a fini en musique, notamment avec la compagnie Kata, qui va aussi clore cette émission. Merci aussi à eux et merci de votre écoute sur Pinode, p-node.org et en DA+ à Paris et Mulhouse, ainsi que sur RDIWA 107.5. Au revoir.
1650, nous sommes à Toulouse. Mon bar a 17 ans. Il est grand comme une armoire. Il a des sourcils broussailleux qui se croisent sur son front. Et il a deux passions dans la vie, lire et se battre. Et ce matin, au lieu de rejoindre ses camarades, il est monté dans la bibliothèque. Il a laissé traîner sa main sur la tranche des livres. Il en a attrapé un au hasard. Il est tombé sur les œuvres de Las Casas, ce moine qui est parti avec Christophe Colomb découvrir l'Amérique et qui a été témoin de toutes les exactions commises par les Espagnols sur les indigènes. Devant tant d'horreur, mon bar pleure. Mais quand il a fini de pleurer, qu'ils agissent en son nom. Change ! La macabre est facile, hein ? Le blanc, ce petit pédant qui se croit supérieur, qui boit du pille et traite de barbares. Des peuples qui n'ont même pas pensé à inventer des canons, des fusils, qui n'ont pas arraché leur forêt, exploité leur terre, accaparé ses fruits et laissé leurs enfants crever de faim. Vous faites rien. exploiter, torturer avec une imagination qui dépasse l'entendement. Ensemble, ils ont monté un équipage pirate. Et à chaque fois qu'ils faisaient résonner un navire qui revenait du Nouveau Monde, ils jetaient le butin à la mer et ne laissaient qu'un seul témoin qui allait raconter partout qu'ils n'en avaient pas après l'or et l'argent. Tant qu'on tuerait les indigènes, Mombar, l'exterminateur et tout son équipage seraient sur le champ. Et la nuit, le brouillard s'est levé. Son navire a disparu. Personne ne saura jamais où il est parti. En enfant, ou au paradis, ou nulle part. Bon, on n'a pas su forcément la fin de l'histoire. C'est que Las Casas, du coup, a fait ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Donc c'est une controverse où ils ont discuté de savoir si les Indiens, les indigènes avaient une âme. Et ils sont mis d'accord sur le fait que oui, les indigènes avaient une âme, donc tous leurs tortionnaires allaient finir en enfer. Donc ils ont arrêté d'esclavagiser les indigènes. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à envoyer des bateaux portugais sur les côtes africaines. Et que sur les côtes africaines, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de grands royaumes, avec plein de rois et de grandes reines, avec des guerriers et des guerrières qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Et ils ont commencé à échanger des êtres humains contre des fusils. Et c'est comme ça que commençait le commerce triangulaire. Mombar n'a pas su peut-être que c'est Louis XIV, hein, avec Colbert, hein, qui a quand même un petit peu sa statue au pied de notre Assemblée nationale, qui a inscrit dans la loi le code noir qui faisait que les propriétaires d'esclaves pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec.
Et voilà. Juste une petite parenthèse.
En reportage permanent.